Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'enlèvement d'une petite fille et surtout les raisons de cet enlèvement, c'est l'affaire Mia. En avril 2021, dans les Vosges, une enfant de 8 ans disparaît. On apprend très vite que c'est sa mère qui en avait perdu la charge, qui commandite le kidnapping. L'enlèvement d'un enfant par un parent, l'affaire est malheureusement commune, mais le mobile, lui, sort vraiment d'ordinaire. Lola Montemaggi, 28 ans, s'est enfoncée dans le conspirationnisme et c'est pour sauver sa fille d'un abominable complot qu'elle l'a fait enlever. L'enquête plonge alors dans les réseaux où Lola s'est perdue et révèle l'existence d'une grande conspiration, cette fois bien réelle. Des individus partout en France fomentent une multitude d'opérations, dont l'enlèvement de Mia. Ultranationalistes, survivalistes, néo-nazis et j'en passe, ils ont en commun de refuser l'autorité de l'État et n'envisagent rien de moins que de le renverser. L'affaire Mia, ou le monde empoisonné par la parano et les fantasmes. Notre invité aujourd'hui, Tristan Ménès-France, maître de conférences associé à l'Université Paris Diderot, membre de l'Observatoire du complotisme, pour lequel il produit l'émission Les Déconspirateurs, également producteur du podcast Complorama sur France Info. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Romain Weber, coordination Franck Cognard, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Lundi 12 avril 2021, il est 23h. Quelque part dans les Vosges, cinq hommes dorment à la belle étoile. Basile, Bruno, Jeannot, Le Corbeau et Pichoun, tels sont leurs pseudos. Basile a une quarantaine d'années, c'est un ancien coach de vie, il est désormais au RSA. Bruno est marié, deux enfants, travaille dans une entreprise de démolition et gagne 6000 euros par mois. Jeannot est en arrêt maladie depuis 20 ans et touche l'allocation adulte handicapé. Le Corbeau a 23 ans. Il a un passé psychiatrique et Pichoun, 57 ans, est pianiste. Étrange attelage. Au même instant, à 11 000 km de là, dans le détroit de Malacca, entre l'Indonésie et la Malaisie, la nuit se termine. Il est 5 heures du matin sur l'archipel de Langkawi et un homme scrute ses messages. Il s'appelle Rémi Daillé Widman, il est français. Et il a posté un mois plus tôt sur Telegram un message sous le pseudo de Baron Rouge.
Avant 2. Lac italien. Année. Note de musique. Celle au masculin. Où paissent les troupeaux. Revêt avec élégance. Avant B. Contenant. Avant W. Petit ami de Donald. Mariage. Année. Après avril, daron, action du carillon, papillon, après B, ilex aquifolium, bat, moche, lumineux.
Cette suite de mots sans aucun sens est un rébus. Et déchiffré, il donne, un commando se prépare à sauver des innocents, mais personne ne sait où frappera l'éclair. Bien. Au même moment, en France, une petite fille dort paisiblement. Elle habite chez sa grand-mère depuis qu'on l'a retirée de la garde de sa mère. Elle s'appelle Mia, elle a 8 ans. Une semaine plus tôt, elle a reçu un message intrigant de sa mère qui disait « On va se retrouver cet été, on va aller à la mer, on va vivre dans les arbres ». Voilà. 5 campeurs, un Français dans l'océan Indien et une enfant de 8 ans que sa mère veut emmener dans les arbres. Là, vous vous dites, où nous emmène-t-il ce récit? Vous ne voyez pas le rapport entre les personnages de l'histoire ainsi présentés? C'est normal. Ces individus sont unis par un lien qui échappe à toute raison. Mardi 13 avril 2021, commune des Poulières dans les Vosges. Il est 11h30 quand deux hommes frappent à la porte d'une maison. Une femme leur ouvre, ils se présentent, ils disent travailler pour la protection judiciaire de la jeunesse. Et ils doivent emmener dans leur bureau sa petite fille, Mia Montemaggi, pour qu'elle y rencontre sa mère qui n'a plus le droit de la voir seule. Ça se tient, la grand-mère les croit, leur confie sa petite fille, les observe entrer dans une camionnette que conduit un troisième homme, puis elle suit du regard la voiture qui s'éloigne. Une fois seule, elle appelle tout de même les services sociaux. et elle apprend que ces hommes ne travaillent absolument pas pour la protection de la jeunesse. Autrement dit, Mia a été enlevée. Quelques heures plus tard, ce mardi 13 avril, les chaînes de télé interrompent leur programme pour diffuser l'alerte enlèvement.
Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. N'agissez pas seul. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, composez le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. Votre mobilisation est essentielle. La survie d'un enfant en dépend.
Un texte défile à l'écran. Les suspects sont trois hommes de type européen, dit l'alerte, deux âgés entre 25 et 35 ans et un troisième entre 45 et 50 ans. La fillette, continue l'alerte, pourrait être accompagnée de sa mère, Lola Montemaggi, âgée de 28 ans, 1m70, très mince, cheveux châtain clair, mi-longs. En l'espace de 3 heures, 30 signalements sont rapportés. Deux témoins ont vu la camionnette sur un parking après l'enlèvement. L'un d'entre eux a soupçonné quelque chose et a noté la plaque. Les gendarmes font alors le lien avec une autre voiture présente dans leur dossier. Et deux jours plus tard, le 15 avril, trois hommes sont arrêtés. Un premier qui se fait appeler Pichoun, un autre surnommé Le Corbeau et un sexagénaire qui se fait appeler Jeannot. Le même jour, le mystérieux Baron Rouge publie un nouveau statut sur Telegram qui dit « Contenant, souhait, monticule, amusement, poisson plat, avant V, outil tranchant. » Un nouveau rébus qui donne « Sauvetage réussi ». Oui, pour cette personne, comme pour les trois hommes arrêtés, Mia n'a pas été enlevée, non, elle a été sauvée. Le procureur prend la parole.
Le premier, un homme de 58 ans, celui qui habite à Paris, se disait être une personne dissidente et, je le cite, « résistant à la barbarie de ce système ». Il estimait avoir permis à une petite fille de retrouver sa mère en agissant, je le cite encore, « à la Arsène Lupin ».
Les individus arrêtés reconnaissent avoir enlevé Mia pour la rendre à sa mère. Et Pichoun ajoute que le gouvernement est un système mafieux attaché à la banque Rothschild. Enfin, quel rapport entre une petite fille, une prétendue barbarie qu'on vient d'entendre, et la banque Rothschild ? Quoi qu'il en soit, les recherches se focalisent sur la mère de Mia. Cette femme, la justice la connaît. Elle a perdu la garde de sa fille à la fin de l'année 2020. Elle ne peut plus la voir seule. Et depuis trois mois, elle ne répond plus à aucune convocation. Le procureur continue.
L'enfant était confronté à la violence de sa mère à l'endroit de son conjoint. Elle était aussi confrontée à ses propos suicidaires. Elle a par ailleurs indiqué fin décembre 2020 qu'elle allait vider son appartement et vendre ses meubles avec pour projet de partir en camping-car avec sa fille dans le but de passer, je la cite, « en dessous des radars de la société ».
Pour retrouver Mia, les enquêteurs se penchent donc sur l'étonnant profil de sa mère. Lola Montemaggi a 20 ans en 2013 lorsqu'elle accouche de Mia. Elle est alors en couple avec le père depuis 4 ans. Les jeunes parents ont de maigres revenus et ils confient l'enfant aux grands-parents paternels. Eux vivent à Montélimar. Lola et son compagnon, qui vivent dans le sud également, rendent régulièrement visite à leur fille. Trois ans plus tard, en 2016, le couple se sépare et Lola revient dans sa région natale, les Vosges, où vit encore sa mère. Son père lui habite la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. À Épinal, où Lola s'installe, elle gagne sa vie comme elle peut, travaille dans un casino, dans des restaurants, à l'usine. En 2018, la petite Mia vit donc depuis 5 ans avec sa grand-mère. Mais un jour, sans prévenir, Lola débarque et repart avec Mia. Les grands-parents protestent, mais leur répond Lola, « Je récupère ma fille, je la garde, c'est tout. » Le père, lui, ne se manifeste plus, c'est à peine si ses parents savent ce qu'il fait. En cette même année 2018, Lola Montemaggi adhère au mouvement des Gilets jaunes. Après avoir été exposée à des gaz lacrymogènes dans une manifestation, elle se referme sur elle-même. Elle est stupéfaite par la violence de la répression, par l'injustice. Elle se sent humiliée, écrasée. Elle ressent physiquement, oui, elle se sent mal. Elle a même l'impression que les gaz qu'elle a inhalés l'ont empoisonnée. Et pour la première fois, elle se considère comme victime de l'État injustement cruel avec elle. Jusqu'où, se demande-t-elle alors, peut aller cette cruauté ? Seule devant son ordinateur, enfermée dans des cercles qui partagent son dégoût, elle découvre des vidéos, des articles, des témoignages sur les violences policières. Elle est scandalisée. Puis elle s'expose à d'autres sujets, la corruption, les groupes pharmaceutiques, l'alimentation. Les questions sont sensées, mais elles lui arrivent en cascade et les réponses qui sont apportées, elles, sont délirantes. Plus Lola s'enfonce dans la jungle de ses réseaux, plus elle se persuade que le monde est comme les gaz qu'elle a inhalés, secrètement empoisonnés. Et s'il y a bien une entité qui est à l'origine de tout cela, ou complice, c'est bien l'État. Alors, elle arrête de se nourrir. Elle ne veut plus rien avaler. Des fois qu'on chercherait à l'empoisonner. Alors forcément, elle maigrit, de façon inquiétante même. Et elle tombe malade. Mais elle s'éveille, ce sont ses mots. En réalité, elle se radicalise. Le 12 novembre 2019, elle fête ses 28 ans. Elle ne pèse plus que 40 kilos et elle publie sur Facebook.
Aujourd'hui, pour mon anniversaire, je suis écœurée. Écœurée de ce monde fou, complètement fou. Écœurée d'en faire partie et plus envie de faire semblant que tout va bien. Innocemment, avant 2019, je croyais que la vie était simple, juste simple. Grandir, travailler, vieillir dans ce monde. Depuis que je me suis réveillée, le fameux éveil, c'est dur. Digérer tout ce que j'ai appris, ce que la télé et les politiques nous cachent, tous ces mensonges, c'est pas facile. Surtout les trucs monstrueux. J'ai voulu me battre pour nous défendre. Je suis tombée malade. Toute cette vie n'est qu'une mascarade, une pièce de théâtre. J'avais confiance en ce système. Je ne l'ai plus du tout, cette confiance. Affaiblie depuis un an, mystérieusement, et sans presque aucun soutien, je dérive. J'ai envie de m'ôter la vie, presque chaque jour, pour arrêter de souffrir, pour ne plus endurer. J'ai cherché de l'aide ici, mais personne. Personne à part remplir des dossiers pour obtenir des aides ou autres. Ce monde est dégueulasse.
Lola Montemaggi est une femme en détresse, ça paraît clair. Elle ne sait plus comment s'occuper de sa fille. Alors elle cherche de l'aide et en trouve sur les réseaux, sur un groupe appelé Révolution et sur d'autres. Des communautés qui sont en fait les relais en France d'un mouvement apparu aux États-Unis du nom de QAnon, ou Canon comme vous voulez, et qui croit aux plus abominables manigances du pouvoir. Élucubrations sur la 5G, sur les ondes, ou un peu surtout en vérité. Lola plonge dans ses théories. Et au plus profond de cette mouvance se trouve un délire encore plus inconcevable que les autres. Les démocrates américains feraient enlever des enfants pour absorber une substance présente dans leur sang et qui les empêcherait de vieillir. Les Clinton, les milliardaires, Hollywood, tous seraient complices de ce réseau pédocriminel. Et quand la conspiration s'exporte en France, elle ajoute évidemment à la liste des coupables Emmanuel Macron et l'État tout entier.
Nous sommes juste de passage.
Je suis une dissidente, écrit Lola. Elle s'est coupée de ses amis, qui, selon ses termes, sont des moutons. Après Noël 2019, elle se coupe également de son ancienne belle-famille. Et son aventure complotiste l'amène jusqu'à une communauté qui a émergé en même temps qu'elle s'est radicalisée, une organisation baptisée One Nation et qui tient le discours suivant.
La construction mondiale de nos sociétés est vouée à s'effondrer. Le système n'est pas durable. Il n'est pas durable parce qu'il n'est pas respectueux. Il y aura toujours des gens qui ne voudront pas voir ni changer. Et malheureusement, le poids sera encore plus lourd pour eux à porter. Mais c'est leur choix. Nous ne pouvons pas attendre tout le monde. Nous sommes déjà beaucoup à pouvoir nous détourner, avant que le jeu ne chancelle. Alors que fait-on ? On décide de vivre ensemble. On s'organise. Et comment ? En créant une nation.
One Nation a été créé par une femme qui s'appelle Alice et qui, partageant la même indignation et les mêmes fantasmes que Lola, en arrive à une solution radicale, se couper du monde. Elle a retiré ses enfants de l'école, qu'elle voit comme une entreprise de conditionnement. Elle refuse les inspections de l'éducation nationale et, bien sûr, Lola est admirative de cette Alice au pays des horreurs. Une Alice qui va plus loin. Nous sommes en mars 2020. Et alors que la France se confine, elle décide d'acheter un fourgon, d'en retirer la plaque d'immatriculation et de partir avec ses enfants. Elle fait le choix de ne plus obéir aux lois. Elle ne reconnaît plus l'autorité de l'État. Et dans sa camionnette, elle tient un discours qui résonne particulièrement aux oreilles de Lola.
Tu arrives comme un bébé, comme un être pur, avec des potentiels illimités. Et on te balance dans un aquarium en te disant « Amuse-toi bien, fais ton mieux ». Mais quand tu réalises que c'est qu'une des réalités possibles, comme moi j'ai réalisé qu'on était dans un aquarium, alors il n'y a plus rien à l'intérieur qui m'intéressait, sauf sortir de cet aquarium et expérimenter ce mot qui est complètement vide de sens aujourd'hui et qui est liberté. Et combien d'êtres humains à l'intérieur de cet aquarium se sentent en échec, inadaptés, inaptes à s'insérer, à la traîne, en marge, etc. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas réussi à te fondre dans un monde de requins. Et combien ont droit à un joli suivi social pour s'insérer ? Mais on n'est pas des enveloppes qu'on glisse dans une fente, dans une boîte.
Confinée dans son petit appartement, seule avec sa fille, Lola ne conçoit plus le monde extérieur que comme un monde empoisonné. Un monde dont, parmi son entourage, elle est la seule évidemment à comprendre qu'il est dangereux. Bref, elle vit dans un cauchemar réveillé. Et la vaccination qui se prépare renforce sa conviction que l'État est criminel, puisqu'il va maintenant inoculer directement le poison dans le sang des citoyens. Pire encore, l'État est tellement maléfique qu'il n'a aucun scrupule à s'en prendre aux enfants. Voilà comment, d'une indignation devant les violences policières, Lola glisse progressivement mais sûrement dans le tréfonds du conspirationnisme. Et elle alerte maintenant sur l'existence de prétendus réseaux pédophiles sataniques. Le 21 avril 2020, elle écrit sur Facebook.
Putain, on est au courant que ces psychopathes enlèvent des enfants impunément depuis longtemps ? Mais les moutons continuent de fermer les yeux. Quand ce sera le tour de votre enfant ou de votre voisin, vous continuerez de fermer les yeux ? À un moment, stop ! Ces enfants sont destinés à alimenter le réseau pédocriminel sataniste. Ils envoient leurs larbins des forces de l'ordre et des services de protection de l'enfance enlever des enfants des soins de leurs parents. Réveillez-vous, bordel !
Lola avait déjà déscolarisé Mia avant le confinement. Mais alors qu'il est temps de reprendre une vie normale, hors de question pour elle que sa fille retourne à l'école. Qui sait ce qui peut lui arriver dès lors qu'elle sera à la merci de l'État ? Alice, de One Nation, poursuit de son côté sa sécession. Elle poste une vidéo présentant sa nouvelle carte d'identité dite « d'être humain » qui remplace son passeport. Un bout de carton plastifié sur lequel est écrit « Alice Pasquale, arrivée sur Terre le 29 novembre 1986 ». Elle a collé une photo d'elle avec un aigle sur le front et un tigre sur la poitrine et elle a rajouté des fleurs séchées parce qu'elle aime ça. Au dos est précisé « J'agis en être humain libre et ne consens à être jugé qu'au regard de mes droits universels imprescriptibles. » Alors Lola décide de suivre son exemple. Fin 2020, elle écrit « Je déclare ne plus participer à ce système criminel. Je ne suis plus citoyen. » Oui, elle dit citoyen, pas citoyenne. Ça la regarde. Je ne fais que la citer. En tout cas, elle ferme ses comptes bancaires, arrête de payer ses assurances et annonce à sa fille qu'elle veut acheter un camping-car et partir avec elle vivre dans la nature. Mia rapporte ce projet à sa grand-mère qui prend peur et qui prévient la justice. Le 30 décembre, le parquet retire d'urgence Mia de la garde de maman pour la confier à mamie. Le 11 janvier, Lola apprend qu'elle ne peut voir sa fille que deux fois par semaine. L'aide sociale à l'enfance écrit ensuite un rapport évoquant les refus de soins et de vaccination. La sous-alimentation décrit des propos suicidaires tenus face à Mia et des comportements violents à l'égard de son compagnon. Le 11 mars, le juge les sépare définitivement. Lola n'a même plus le droit de téléphoner à Mia. Elle est dévastée. Et s'ajoute à cet anéantissement une peur panique générée par les complots dans lesquels elle est tombée. En résumé, l'État s'en prend à sa fille, Mia est donc en danger. Lola Montemaggi cherche alors de l'aide. Le 29 janvier, elle avait déjà écrit le message suivant.
Je fais un petit appel pour demander conseil. J'ai confié ma fille à ma mère car j'étais malade. Les institutions sont venues s'immiscer dans notre vie et ont déclaré qu'elle était placée chez ma mère pour 2 mois et droit de visite 2 fois par mois avec un tiers. Pourquoi ? Ma mère m'a dénoncée. Sans le savoir, elle est conditionnée. Comme complotiste. Disant que je suis anti-5G, vaccin, école, médecine allopathique, et que je dénonce les réseaux pédocrimes qui n'existent bien sûr pas pour elle. Juste avant ce jugement, j'allais mieux. Et j'étais sur le point de récupérer ma fille. Maintenant, si je vais la voir, je suis hors la loi. Et surtout, je refuse catégoriquement que ma fille soit placée ailleurs, car pour eux, ma fille est sous leur autorité maintenant. Et vous connaissez les réseaux qui sont attenants à tout ça. Affreux. Donc, comment faire ?
Lola Montemaggi est contactée par un homme. Il se présente sous le pseudo de Bouga. Il a 42 ans, il est animateur d'une association d'aide aux familles. Il propose de l'aider. Après quelques mails, il envoie 2 membres de son réseau à la rencontre de Lola. Et ils en reviennent avec une bonne opinion d'elle. Bouga lance alors un projet d'enlèvement. Nom de code, opération Lima. Elle comme Lola, Ima comme l'anagramme de Mia. Première étape, recruter du personnel. Pour protester contre le port du masque, la vaccination et pour exister politiquement, Florian Philippot, ancien numéro 2 du FN, organise tous les samedis des manifs devant le ministère de la Santé. C'est là, au printemps 2021, que Pichoun, 57 ans, qui fait partie du réseau de Bouga, le rencontre. Il lui présente l'affaire. Il a besoin d'hommes pour aller sauver une enfant. Il le convie à des réunions, elles ont lieu chez Pichoun. Il habite dans le 19e arrondissement de Paris et il possède un box à la cave. C'est donc ici que les membres de l'équipe se rencontrent. Ils évaluent le coût de l'opération, attribuent les rôles de chacun. L'opération est lancée le 11 avril et fonctionne parfaitement. Les membres du groupe font croire à la grand-mère qu'ils sont des éducateurs, prennent Mia avec eux sans violence, la confient à sa mère, puis conduisent les deux à la frontière suisse. De l'autre côté, les attend un certain Roméo, qu'ils amènent à Fribourg. Le lendemain, une autre complice les héberge à Neuchâtel, à 1 heure de route, puis les fait dormir dans un squat. L'objectif est de traverser l'Europe pour partir vivre en Russie, terre de liberté comme chacun le sait, en tout cas pour ces individus. Mais le 18 avril, 5 jours après l'enlèvement, la police suisse retrouve leurs traces. Elle récupère Mia, saine et sauve. Lola Montemaggi est mise en examen pour enlèvement de mineurs de moins de 15 ans en bande organisée. C'est la fin de sa cavale. Emmener Mia et sa mère en Russie paraissait absolument infaisable. Mais l'enlèvement lui-même et le début de la cavale ont été finement préparés. L'opération impliquait des financements et des complices. Bien, et au fait, par qui a-t-elle été organisée cette opération ? Les hommes arrêtés mentionnent tous un individu qui apparaît comme le cerveau. Enfin, si je puis dire. Il n'était pas du convoi, et pour cause, il vit en Malaisie. Il s'appelle Rémi Daillé-Widman, et il est connu des renseignements depuis qu'il a posté, le 17 octobre 2020, la vidéo suivante.
Notre pays a connu l'équivalent d'une guerre. Non seulement notre pays, mais toute l'Europe occidentale. Tout a été saccagé. État, santé, justice, éducation, économie, autorité publique, armée, patrimoine, tout est à terre. Plus grave encore, une véritable entreprise de destruction vise non plus seulement vos biens, mais vous-même et votre descendance. Tout est violé, jusqu'aux textes fondateurs que sont la Constitution, les lois, les grandes conventions internationales et la Charte des droits. Nous devons donc agir. Françaises et Français, je vous l'annonce, le renversement du gouvernement se fera dans l'ordre, dans le respect des personnes et au cas où quelqu'un serait atteint dans son intégrité physique par les nécessités de l'action, dans le respect de la loi morale supérieure.
Depuis la Malaisie, Rémi Dayevidman projette tout simplement de renverser le gouvernement. Mais qui est-il ? Eh bien, c'est d'abord un homme issu d'une bonne famille, fils d'un député centriste, qui a une vie professionnelle très chaotique. Son père l'a parachuté au poste de président du Modem en Haute-Garonne. Mais Rémi Daillé, allergique à toute autorité, s'est fait exclure du parti. Ensuite, il a été vendeur de savon, vigile, romancier, doubleur de films, s'est essayé au théâtre, a créé une multitude de sites internet pour vendre une multitude de choses. Par exemple, une méthode pour devenir riche. Ce qui est un comble, parce que riche, Rémi Daillé ne l'est pas du tout. Non, il est d'abord et avant tout anti-système, anti-État, monarchiste, et donc, il déteste la République. Antisémite, fervent catholique, lui-même père de 9 enfants, il quitte la France en 2015 pour s'installer en Malaisie. Pourquoi ce pays ? On ne sait pas vraiment. Pourquoi quitte-t-il la France d'ailleurs ? Oh, c'est tout simple. Il la considère comme, je reprends ces mots, l'un des 4 pires pays pour les droits personnels, derrière le Soudan, Cuba et la Corée du Nord. En Malaisie, il vit d'un site qu'il a créé qui propose aux parents une méthode pour assurer l'enseignement à domicile. Comme le lie One Nation, il est convaincu que l'école est une entreprise criminelle et il appelle à la fuir, tout comme il dénonce les placements d'enfants et, de manière générale, ce qu'il considère comme une dictature. Depuis son exil, Daï a l'impression d'être un résistant. Lui qui a connu tant de métiers différents, qui est passionné par les romans et la comédie, qui a passé sa vie à changer de costume, il aimerait bien enfiler un autre costume grandiose, celui du général de Gaulle. Lui n'est pas en exil à Londres, il est dans le détroit de Malacca, mais il résiste et, en secret, organise ses forces de l'intérieur. La vidéo postée en octobre 2020 connaît un immense succès. Son programme, qui comprend pêle-mêle la suppression de presque tous les impôts, l'interdiction des chemtrails, le retour à la monarchie et l'interdiction de la 5G, cherchez le rapport, ce n'est rien d'autre qu'un agrégat de toutes ces théories complotistes qui attirent des dizaines d'intéressés. Ceux-ci sont organisés en cellules régionales. On trouve des dizaines de policiers, de gendarmes et de militaires à qui un lieutenant-colonel à la retraite envoie les ordres de marche.
Le combat que nous avons rejoint demande une chose difficile, être le maillon d'une grande chaîne. Le jour J, Rémi et nos troupes vont tirer sur une grande chaîne. Et si chacun d'entre nous aura su tenir bon jusqu'au bout, le pouvoir tombera et nous aurons vaincu. Que les combattants du jour J se préparent à la bataille, mentalement et physiquement. Que les plus à l'aise avec les moyens de communication modernes aident ceux qui ne le sont pas à se mettre au niveau. Que les anciens calment les ardeurs des plus jeunes et leur évitent la garde à vue. Que les soldats digitaux regroupent leurs actions sur le hashtag « Tous avec Rémi ». Chacun doit devenir le maillon de la chaîne qui solidifie son voisin.
En vue du coup d'État, Rémi Daillé appelle ses fidèles à s'aguerrir. Plus les adeptes commettront d'actions violentes, plus ils monteront en grade. Les cibles ? Des antifafs, des journalistes, des centres d'avortement. Un groupe de néo-nazis en Alsace est arrêté alors qu'il projetait d'attaquer une loge maçonnique. Un autre homme fonce en voiture sur la gendarmerie de Dax après avoir tagué sur un mur « Tous avec Rémi Daillé ». Le projet global a un nom, Opération Azur. La cible, l'Élysée. Un jour, les troupes armées se rejoindront à Paris et attaqueront le palais. C'est juste oublié que certains gilets jaunes ont cru à ce fantasme un jour du mois de novembre 2019 à Paris. Et on connaît la suite. L'Élysée n'a jamais été pris par la rue parce que c'est impossible. Ce qui n'empêche pas Daillé de parler de sa prise de pouvoir dans sa première vidéo.
Le jour où je franchirai la Seine, la France se libérera. Vous trouverez donc en bonne place les mesures que je prendrai aussitôt que j'accéderai au pouvoir, en tant non pas que président ou je ne sais quel titre de la pantomime républicaine, mais en tant que chef de la nation. Ce que vous avez à faire est simple. Préparez-vous. Convainquez les militaires hésitants, les cadres du pays, qu'ils constituent des réseaux, Contactez-nous, nous vous enrôlerons. Joignez vos forces aux nôtres. Je vous annoncerai le jour où nous agirons. Le peuple renversera ce pouvoir illégitime. Votre temps est venu, votre pays vous est rendu. Vive la France.
Le plan ne comporte pas qu'un volet militaire. Il veut aussi constituer une branche chargée de restituer des enfants retirés de la garde de leurs parents. Alors quand Lola Montemaggi sollicite ce mouvement par l'intermédiaire d'un nommé Bouga, Rémi Daillier organise l'opération. Oui, c'est lui qui collecte les dons de la cagnotte pour financer l'enlèvement. Cagnotte qu'il appelle pot de départ du gouvernement. C'est par lui aussi que sont recrutés des complices qui doivent aider Lola dans sa cavale et d'ailleurs, il revendique l'enlèvement dès le lendemain. Il est expulsé de Malaisie 2 mois plus tard, mis en examen pour enlèvement de mineurs de moins de 15 ans, bande organisée, puis pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Il attend son procès. Ses fidèles, eux, ne sont pas parvenus à mener d'autres actions violentes, mais combien en préparaient-ils ? Un an plus tard, Lola, elle aussi, attend son procès. Le 31 juillet 2022, elle écrit sur Facebook :
Je suis accusée d'enlèvement, soustraction d'enfants et en bande organisée. Je risque la perpétuité, soit 30 ans en France. Pour m'enlever ma fille, comme dans tout placement, j'ai été accusée d'avoir mis en danger ma fille et ou de maltraitance. Donc, le monde tourne bien à l'envers. Tout ce dont ils m'accusent, c'est eux qui l'ont fait.
Des individus qui croient que des sociétés secrètes dirigent le monde et qui se constituent eux-mêmes en sociétés secrètes. Des citoyens tellement imbibés d'imaginaires conspirationnistes qu'ils ne peuvent choisir d'autres endroits que des caves pour fomenter leur propre conspiration. Des hommes et des femmes convaincus qu'on enlève des enfants et qui terminent eux-mêmes par enlever des enfants. Lola Montemaggi a raison, le monde tourne bien à l'envers. Leur monde.
Un vent, un grand vent nouveau souffle sur le pays très chaudement. Dans un bain de foule et dévot, à moitié épaillis. Se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz. C'était à n'y comprendre rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit du serveur central. Sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'affaire Mia, dont nous allons parler avec notre invité Tristan Mendès-France. Bonjour.
Bonjour à tous.
Membre de l'Observatoire du complotisme, pour lequel vous produisez l'émission Les Déconspirateurs. Vous êtes producteur du podcast Complorama sur France Info, qui décortique les logiques complotistes dans l'actualité avec Marina Kavita et Rudy Reichstadt. Alors, en quoi déjà l'affaire Mia est-elle représentative des dérives complotistes dans lesquelles tombent aujourd'hui certains de nos concitoyens? En quoi cette histoire est-elle emblématique? Si elle l'est d'ailleurs.
Elle l'est. D'abord, c'est fascinant, cette histoire. C'est absolument ahurissant. Mais on a la trajectoire d'une personne en grande fragilité. On a quelqu'un qui est visiblement en détresse, cette mère qui semble également vraiment en souffrance, quoi, vraiment. Et je crois que c'est probablement un des éléments fondamentaux dans la bascule dans les théories complotistes, pour une bonne partie de ces gens, c'est d'abord des gens qui cherchent des réponses à un mal-être, à un problème. Et le souci, c'est qu'ils trouvent par voie des réponses, mais des réponses qui ne sont pas les bonnes.
Ouais. Et on a l'impression qu'ils se rassurent eux-mêmes en nous disant, vous voyez, nous on voit tout ce qu'il y a derrière, vous vous voyez pas, vous êtes des moutons de panurge en fait. Ils se rassurent, ils s'auto-rassurent.
Mais ils s'offrent une lecture du monde qui a soudainement du sens. Oui. Ils cherchent à donner du sens. Et ils y arrivent avec la promotion qui est faite en ligne de narratifs complotistes. Il y a une offre complotiste absolument délirante en ligne. Et quand on vient s'y abreuver, eh bien, on commence à avoir des réponses. Surtout, on a des responsables, des cibles. Si je suis mal, si je perds mes enfants, si la situation est dramatique, ou si je vis, si j'habite ma vie, que les choses se passent mal dans ma propre vie, c'est qu'il y a peut-être des responsables, des coupables. Et ça simplifie beaucoup les choses de pouvoir pointer un coupable.
Et on a même ce courant de pensée, ou plus de réflexes d'ailleurs, jusque dans la sphère politique. Est-ce que vous diriez que la théorie du grand remplacement, par exemple, est du ressort du complotisme, du fantasme?
Alors, il faut toujours faire un petit peu attention. Il y a des réalités démographiques, il y a des réalités de migration, et puis il y a ce qu'on y projette. Et les choses commencent à devenir complotistes lorsqu'on imagine qu'il y a un plan secret des élites mondiales pour organiser l'assèchement de telle ou telle population en faveur d'une autre. Tout dépend quel est le discours qu'on y met derrière.
Alors justement, puisque vous parlez du discours qu'on y met derrière et même devant, il y a la liberté. Ces gens disent, voilà, nous sommes des combattants de la liberté, de notre liberté. Pourtant, ils font les yeux doux. Ils ont fait, même avant la guerre contre l'Ukraine, les yeux doux à la Russie, qui n'est pas spécialement un modèle de liberté. Qu'est-ce qu'ils entendent par liberté?
En gros, quand ils parlent de liberté, c'est une façon de ne pas dire, alors qu'ils le disent aussi d'ailleurs, qu'ils promeuvent quelque chose face à quelque chose d'autre. Et donc cette liberté, ils la promeuvent fortement parce qu'ils considèrent qu'il y a un manque aujourd'hui de liberté du fait d'un système oppressif, du fait qu'il y a un État autoritaire, dictatorial. Et donc cette promotion de la liberté est en fait un signal, un non-dit, encore qu'ils le disent aussi. En tout cas, c'est une façon de dire que l'on vit sous oppression d'un régime, d'une entité mystérieuse, quelle qu'elle soit. Donc cette promotion de liberté qu'on voit souvent dans les manifestations, on les a vues d'ailleurs dans les manifestations de Philippot, qui arborait...
Oui, on en a parlé d'ailleurs.
Ouais, aussi, ouais. Qui parlait vraiment, qui a des panneaux entiers, qui font la promotion de la liberté, mais cette liberté sous-entend en fait qu'on vit sous un régime dictatorial.
Alors c'est oublié que l'État, c'est aussi l'État-providence, bien sûr qu'il a, aujourd'hui il souffre de manque de recettes pour mener à bien sa mission de solidarité, mais l'État c'est aussi ça, et la solidarité, ils ne veulent pas le voir.
Pour, disons, quand on commence à avoir une lecture complotiste un peu du monde, et un peu paranoïaque, on considère l'État comme une machine oppressive, c'est une machine qui ne fait rien d'autre qu'opprimer, contraindre. C'est comme ça que le vit la mère de Mia, c'est comme ça que le vit Rémi Daillé. C'est en gros quelque chose qui cherche à vous contraindre, à réduire votre liberté de citoyen, à vos libertés fondamentales, vos libertés naturelles, qui sont fortement promues dans ces milieux-là. Et donc il y a une posture assez générale, anti-étatique, plus vécue comme une posture anti-système.
Oui, c'est ça.
L'État, c'est le système qui m'opprime.
Rémi Daillet, je parle de lui parce qu'il y a peut-être une autre motivation plus prosaïque de ces gens qui, peut-être, n'arrivent pas à faire le chemin qu'ils auraient aimé faire, dans la politique, par exemple, et qui se retrouvent un petit peu sur le quai. Alors, il faut bien se raccrocher à quelque chose. Est-ce que, pour Rémi Daillet, par exemple, ce n'est pas le seul, ce serait de ce ressort-là aussi.
Rémi Daillet a une psychologie complexe, donc je suis pas psychologue, mais clairement il y a de la mégalomanie. C'est quelqu'un qui est extrêmement centré sur lui-même, et on le voit d'ailleurs dans cette vidéo où il annonce sur YouTube, sur fond noir et musique pompeuse, qu'il va renverser le gouvernement. On voit bien qu'il se vit comme un De Gaulle. Donc c'est quelqu'un qui clairement un appétit, un besoin de reconnaissance, de pouvoir, et clairement il a trouvé malheureusement une audience qui est venue s'agréger à lui et qui d'ailleurs l'a nourri en retour, hein, parce que c'est pas tout seul dans son garage qu'on devient tout d'un coup épris d'une sorte de s'imaginer un De Gaulle. Eh bien, c'est quand on a autour de soi effectivement des gens qui viennent s'agréger à vous, notamment en ligne, que on peut avoir une sorte d'hubris et on se sent encore une fois soutenu par une foule invisible et qui vient encore une fois donner corps à ce fantasme délirant qu'on porte.
Et on sera évidemment d'accord que le numérique, la possibilité pour tout le monde de prendre la parole, a peut-être pas créé le phénomène, mais l'a aggravé, c'est presque un truisme. On est d'accord là-dessus.
Oui, le phénomène Rémi Daillet, vous enlevez le facteur réseaux sociaux, il n'existe pas.
Ben, voilà.
C'est quelqu'un qui aurait pu avoir les idées qu'il avait, mais c'est des idées qu'il aurait, comment dirais-je, promues autour de son entourage proche, ses amis, et tout le monde lui aurait dit, écoute, franchement, tu délires, arrête là. Là, il a effectivement pu trouver cette offre complotiste, à trouver, c'est un moment historique d'ailleurs pour ce type d'offre complotiste, de trouver enfin une audience et de pouvoir créer une véritable synergie autour de ces délires, qui devraient rester des délires assez marginaux.
Tristan Mendès-France, on se retrouve juste après avoir écouté Emma Peters qui chante « Terrien ».
Souvent je me demande comment tourne la terre. J'ai besoin d'espace, je sais pas comment faire. Il faut que je me casse, il faut que je prenne l'air. J'ai trop d'angoisse, je voudrais les faire taire. Souvent je me demande comment tourne la terre. J'ai besoin d'espace, je sais pas comment faire. Il faut que je me casse, il faut que je prenne l'air. J'ai trop d'angoisse, je voudrais les faire taire. J'ai pas d'attache, pas de rêve, je fais tout à l'enfer. Chez moi c'est marche ou crève, et je regarde jamais terre. J'ai pas demandé à venir au monde et toutes mes émotions se confondent. J'écris des textes un peu bidons calés sur le bip du micro-ondes. Et j'ai la dalle, ouais. J'prends tout ce qu'on me donne, un peu bestial, ouais. Je les collectionne, je m'en bats les couilles de ton avis. Pas là pour faire ami-ami, moi je veux mon carré VIP. Et la villa ami-ami, j'ai peur de tout, de nous, mais de moi surtout. Et dans mon corps y'a tout qui brûle, du mal à sortir de ma bulle. Et même ça m'emboucle dans ma tête, pour ça qu'on sort, qu'on fait la fête. Je suis dans un putain de cercle vicieux, je suis comme s'il y avait pas d'enjeu. Mais je suis fatiguée, je me couche tard, je me lève tard. Ouais, je vis en décalé, et je me sens bien nulle part. Souvent je me demande comment tourne la terre. J'ai besoin d'espace, je sais pas comment faire. Il faut que je me casse, il faut que je prenne l'air. J'ai trop d'angoisse, je voudrais les faire taire. Souvent je me demande comment tourne la terre. J'ai besoin d'espace, je sais pas comment faire. Il faut que je me casse, il faut que je prenne l'air. J'ai trop d'angoisse, je voudrais les faire taire. C'est quoi le but de mon existence? Est-ce que tu sais pourquoi je suis née? Je me fais pas confiance. Pourquoi à chaque fois que je vois le vide, j'ai envie de sauter? Je te jure. J'ai aimé des gens qui s'aimaient pas eux-mêmes. Si t'es pas bien dans ta peau, c'est pas mon problème. J'ai assez de galères à gérer tous les jours, fight avec moi-même. Avoir du succès ou t'aimer, toujours le même dilemme. Dans ma famille, ils sont tous devenus fous à force de sur les dessus. Dis-moi comment mariage enfant peut tout détruire comme un opus. J'espère que c'est pas héréditaire, malédiction et nique ta mère. Toutes les nuits, je fais le même cauchemar. Je me lève, je sais plus jouer de la guitare. Non, faut pas me laisser. Faut pas me laisser seule. Non. Je pourrais m'abîmer, et j'ai encore des tas de choses à vivre avant le linceul. Souvent je me demande comment tourne la terre. J'ai besoin d'espace, je sais pas comment faire. Il faut que je me casse, il faut que je prenne l'air. J'ai trop d'angoisse, je voudrais les faire taire. Souvent je me demande comment tourne la terre. J'ai besoin d'espace, je sais pas comment faire. Il faut que je me casse, il faut que je prenne l'air. J'ai trop d'angoisse, je voudrais les faire.
France Inter. Affaires sensibles.
Tristan Madès-France, derrière ces théories conspirationnistes, il y a l'influence américaine, où on a parlé de cette communauté très importante, née au moment de l'élection de Trump, QAnon. Comment est-elle née? À qui profite-t-elle? Qui sont ces gens-là?
On ne sait pas trop comment elle est née. A priori, tout a commencé lorsqu'un mystérieux Q a commencé à publier des messages sur un forum tout à fait souterrain aux États-Unis, en se faisant passer pour, disons, quelqu'un qui est dans le secret militaire et qui révélerait qu'il y a un complot de l'État profond et une sorte de conspiration des élites internationales contre la population planétaire et contre Trump en particulier. Et c'est quelque chose qui a commencé à gagner en traction à partir, disons, de 2017-2018 et qui s'est exporté étrangement un peu partout autour de la planète.
Et le complotisme français est-il exactement le même que le complotisme américain, ou y a-t-il, si j'ose dire, une spécificité nationale ou européenne?
Ce qui est assez fascinant avec les phénomènes complotistes en général, c'est que il y a toujours une particularité nationale. Chaque théorie complotiste, même celles qui s'exportent, qui s'internationalisent, comme la mouvance des QAnon, qui a atteint aussi les rivages en France, vont s'hybrider avec les communautés présentes sur le sol national, avec sur le terreau français si on veut, et va mélanger à la fois, va changer les personnalités visées, va essayer de d'hybrider des théories complotistes qui préexistaient. Et c'est donc toute la puissance de ces théories complotistes, c'est de s'adapter avec une plastique très souple aux contingences de chacun des pays sur lesquels elles se développent.
Alors précisément, en France, j'ai l'impression qu'il y a deux réservoirs à complot et complotisme, les gilets jaunes, ce mouvement-là, et puis le virus et la vaccination. Pourquoi et comment ces deux événements ont-ils été des moments forts des théories conspirationnistes?
Alors la mouvance gilet jaune, pour justifiable qu'elle soit au niveau de la détresse économique de ceux qui s'y sont exprimés durant ces manifestations, a été malheureusement, en tout cas pour eux, notamment sur les groupes Facebook, un lieu d'émulation et d'accélération de radicalité et de théories complotistes. Simplement parce que des groupes marginaux, très vocaux, ont pénétré, se sont exprimés dans ces groupes gilets jaunes sur Facebook, se sont fait entendre et ont réussi à contaminer en fait une partie de cette mouvance et de gagner en traction avec elle. Donc le mouvement Gilets jaunes est malheureusement, pour le mouvement Gilets jaunes, effectivement un moment de traction, de levier des théories complotistes en général et des radicalités en particulier. Le Covid, c'est un peu la même chose. On est dans un moment où toutes les sociétés sont saisies de torpeur, en tout cas au début, rappelez-vous, comme on était tous à laver nos légumes en rentrant dans la maison, sous la douche, bref. Donc on était quand même tous pris par une grande angoisse, une grande inquiétude, et ça c'est un terreau malheureusement très très favorable au développement des théories complotistes. Dès qu'on est mu par un sentiment d'urgence, de crainte, on va chercher des réponses souvent simples, caricaturales parfois, et l'offre complotiste aujourd'hui, que ces bouleversements de l'accès à l'information travaillé par le numérique et les réseaux sociaux offrent aujourd'hui, ce bouleversement fait que cette offre de théories complotistes vient répondre à toutes ces différentes inquiétudes, et le moment Covid est malheureusement un de ces grands leviers d'accélération des théories complotistes.
Bien sûr, bien sûr. Alors donc, en résumé, par exemple, face au vaccin, il y a ceux qui se font vacciner, qui n'ont pas peur, qui ne sont pas contre, ils sont même pour, ce seraient les rationnels, et ceux qui ne veulent pas du vaccin, qui considèrent qu'il est plus dangereux de se faire vacciner que d'avoir la maladie, seraient des irrationnels. Est-ce que la frontière, elle passe entre le rationnel et l'irrationnel?
Ce que je peux dire, c'est que vraisemblablement, il y a un souci de la part de ceux qui promeuvent les discours anti-vax et qui sont convaincus dans ce discours anti-vax. Ils sont pour moi plutôt victimes de la façon qu'ils ont de s'informer. Lorsqu'on commence à basculer dans cette vision un peu complotiste du monde, on va commencer à se biberonner, notamment via les réseaux sociaux, à des sources d'informations qui, elles, ne sont pas tant pas rationnels, mais en tout cas ne comprennent pas ce que c'est que le consensus scientifique sur une question. Et qui vont aller faire du cherry picking, comme on dit en anglais, qui vont simplement aller picorer des sources d'informations ou des voix discordantes en leur donnant un crédit qu'elles n'ont pas au sein du consensus scientifique sur telle ou telle question de santé.
On va écouter une archive, Rémi Daillé, dont on a beaucoup parlé, poste peu de temps après sa première vidéo, une seconde appelée « Première sommation, appel aux militaires », j'insiste sur « militaires ». On écoute cet extrait dans lequel il prétend avoir recruté une grande part des forces de l'ordre.
Je signale aux forces de l'ordre, sur place, que vous ne serez pas épaulés par les unités de CRS, de gendarmes mobiles ou de Rogenfort que vous attendez. Vous n'aurez pas de renfort. Vous serez lâchés, vous comprenez? Vous serez en sous-effectif. Par conséquent, levez le pied, profil bas, retraite en bon ordre, ça vaut mieux pour tout le monde. Et puis souvenez-vous bien que l'ordre vous est donné par nous-mêmes de rester stationné dans vos cantonnements et vos casernes. Il y aura peut-être de la bagarre, ce n'est pas la première fois. On a gardé le souvenir de Crécy, Azincourt, Bouvines, Pathé, Pavie, Poitiers, le chemin des Dames. C'est dans l'ordre des choses. Nous irons libérer la terre de France et vous ne nous arrêterez pas. On n'arrête pas un peuple qui part au combat.
Alors, il y aurait pas mal de policiers, de gendarmes, de militaires. Là encore, c'est un fantasme, un mensonge?
Alors, dans son discours, je pense pas que ça, toute l'armée française ait pu l'écouter avec le moindre sérieux. Mais clairement, il a réussi en tout cas à convaincre des gens qui soit sont des anciens militaires, soit qui sont des gens de la police, tout ça. Bon bref, donc il a réussi quand même à parler à une frange de la population qui a réussi à le rejoindre. Quand je dis une frange de la population, à la fin des fins, il faut voir combien d'individus ont participé à l'enlèvement, combien d'individus se sont concrètement rapprochés de lui pour renverser le gouvernement français. Ça reste, il faut compter en termes de dizaines, peut-être quelques centaines, au grand maximum, donc ça reste quelque chose de très 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 marginal. Mais ce que je trouve assez fascinant, c'est cette passion pour l'armée que peuvent avoir certaines mouvances complotistes. Les QAnon, c'est la même chose aux États-Unis. Ils fantasment que l'armée va se soulever pour nettoyer la démocratie américaine de tous ces démocrates pédosatanistes. Et même chose pour Daillé. Lui considère qu'il y a une sorte de dépravation du gouvernement parlementaire aujourd'hui et que c'est encore la pureté de l'armée française, une armée populaire, mais à la fois une armée professionnelle, qui va se soulever et nettoyer cette société en train de pourrir d'elle-même.
Et au bout du compte, qu'est-ce qui est le plus dangereux dans cette démarche conspirationniste ?
Ce qui est dangereux à mes yeux, c'est le symptôme Daillé. C'est pas tant qu'il y ait une masse de gens qui décident effectivement de renverser le gouvernement, mais qu'il y en ait quelques-uns très décidés, et qui se coordonnent, et qu'ils se coordonnent avec des gens qui ont des pratiques qui sont, qui ont des habitudes avec le port d'armes, par exemple. Et là, on peut voir que quelques individus, ne serait-ce que des tentatives d'attentats, peut-être de renversement, de coup d'État, c'est peut-être moins probable, mais en tout cas, des attentats, il suffit de très peu de personnes. Donc, c'est pas tant le volume que la qualité des gens qui basculent, et quand on voit le cas de Daillé, ou les cas de certains terroristes, eh bien, on voit qu'il faut peu de choses pour commettre parfois l'irréparable.
Merci infiniment, Tristan Vanasse-France, d'avoir apporté vos lumières sur ce mouvement de société. J'allais dire contemporain, qui n'est peut-être pas si contemporain que ça. D'ailleurs, on n'a pas le temps de développer ça. Merci beaucoup. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la Fermilla ou les dessous du complotisme. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Antoine Teboul.